Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième opus de Kaléidoscope, une émission pour en savoir plus sur l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, un rendez-vous radiophonique mensuel que j'ai le plaisir de partager avec les pensionnaires et les soignants de la clinique de la Chênaie. Après avoir évoqué dans les émissions précédentes l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, les clubs thérapeutiques ou encore les ateliers et les contrats, mes invités d'aujourd'hui vous feront une présentation générale du paysage de la psychiatrie et du soin, illustrée de témoignages des pensionnaires comme à chaque émission. Alors nous sommes de nouveau installés dans la bibliothèque de la clinique avec à mes côtés Nathalie, Rémi, Gwenvaël, et Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Gwenvaël, je vais tout de suite te donner la parole. Tu vas nous présenter ce qui va se passer.
Oui, effectivement. Donc on est dans la quatrième émission de Kaléidoscope de la psychiatrie en couleur. Donc la quatrième sur 10 émissions. Ces 10 émissions, elles sont continuées à être diffusées jusqu'à fin juin. C'est-à-dire que ça va coïncider avec la fête du club de la Chênaie. Et donc, dans cet opus, aujourd'hui, on va discuter des parcours de vie et des parcours de soins des adhérents du club. Et donc, je vais donner rapidement la parole aux autres personnes.
Alors, Julien.
Eh ben, on peut commencer déjà. Le sujet de l'émission, c'est des parcours de vie et des parcours de soins. Donc, ça peut être bien déjà de se faire une idée de comment organiser l'offre de soins en santé mentale dans notre pays. Le fonctionnement, c'est un fonctionnement qui a été mis en place dans la période après-guerre. C'est le fonctionnement par psychiatrie de secteur qui fonctionne en fonction de du lieu où on vit. On est rattaché à l'hôpital psychiatrique le plus proche. Ici, voilà, en Loire-et-Cher, on a 3 secteurs grands pôles psychiatriques, l'hôpital de Blois, de Romorantin et de Vendôme. Et donc, le rôle de cet hôpital de secteur, c'est d'accueillir les patients qui appartiennent à cette zone géographique, de les prendre en soins dans une phase aiguë et après d'orienter ces personnes pour la suite de leur trajectoire, du coup, de leur parcours de vie et de leur parcours de soins. Les maladies sont très différentes, mais souvent, on passe dans une phase chronique, c'est-à-dire vivre avec... on a passé la phase aiguë où ça va très mal, on a souvent un traitement qui a été mis en place, mais il reste souvent quelques petits symptômes, ça dépend de chacun, de l'expression de sa maladie, et du coup dans cette phase chronique, on apprend à vivre le mieux possible avec ses symptômes. Voilà, donc l'hôpital public est garant de cet accueil des patients lors d'une phase particulièrement difficile, de ce qu'on appelle plutôt la phase aiguë, et après de l'orientation des soins pour... La vie après crise, après hôpital public.
C'est l'équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire qui oriente la personne. Comment ça peut se passer, ou c'est au cas par cas, c'est très différent selon les cas.
C'est très médicalisé en fait. On prend surtout en charge la pathologie, la phase aiguë qu'on traite principalement avec des médicaments. Et qu'on stabilise les personnes dans ce moment-là.
C'était juste pour savoir comment se faisait l'orientation, si c'était quelque chose de très spécifique selon les personnes, ou j'imagine qu'il faut suivre un protocole, non ?
Ah, c'est forcément individuel, les orientations. On n'oriente pas forcément les patients en fonction de leur maladie, mais on essaye en fonction de qui ils sont, de leur projet de vie, de leur état de santé, et on n'applique pas des protocoles types pour tel type de maladie. Mmh. Non, c'est quelque chose qui est plus applicable à la maladie physique, à la maladie somatique, où quand on a un bras cassé, on sait qu'il faut plâtrer, quand on a un appendicite, il faut opérer. Mais quand on a des symptômes psychiatriques, des hallucinations, ça ne se soigne pas pareil d'une personne à l'autre.
Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un mode d'entrée, il y a une première fois. Cette porte d'entrée peut être les urgences, où une famille, un conjoint ou les enfants accompagnent un proche, soit directement, soit par le biais des pompiers. Ça peut être aussi, donc ça c'est quelque chose de volontaire qui est souhaité par la personne malade et l'ensemble des personnes qui lui sont proches. Ça peut être aussi un mode d'entrée sous contrainte. Malheureusement avec des symptômes qui ne sont pas compatibles avec toutes les guillemets que je puisse mettre avec notre société organisée, comme elle est actuellement, avec un risque pour autrui, mais un risque aussi pour la personne elle-même, un danger qui peut, ou des dangers qui peuvent être présents. Et puis, après, il y a aussi l'ultime prise en charge, obligation par un médecin ou un préfet. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement HO, hospitalisation d'office. Et c'est un, il y a un niveau comme ça d'hospitalisation sous contrainte qui sont possibles et des fois souhaitables, mais qui sont une étape, un mode d'entrée dans, la, dans l'univers de la psychiatrie d'urgence, de crise, les grosses phases aiguës. Et du coup, ça, ça ouvre une porte vers les psychiatries de secteur, les HP, les hôpitaux pardon, psychiatriques. Et après, s'établit du coup une phase d'accueil de la personne, de reconnaissance de ses troubles, ou un travail pour l'aider à, comment dire, à prendre possession de son nouvel être, de ses nouvelles phases, de, ses, de la non-reconnaissance de soi. C'est assez primordial, parce qu'on se redécouvre comme une autre personne, soit en phase dépressive majeure, soit en phase aiguë hypomane, ou alors à l'excès maniaque. Voilà, merci de m'aider, je n'arrivais pas à trouver le mot. Et puis après, oui, ça peut être des phénomènes hallucinatoires qu'on, bah forcément qu'on ne maîtrise pas. On se retrouve dans des univers... très destructeur, très noir, ou au contraire très idyllique. Et du coup, il y a une, un nivellement qui est complètement différent avec ce qui peut se passer dans la société, dans cette société dans laquelle on vit, nous, ici. C'est une société française, une société dans, de tribus, une société dans d'autres pays, voilà, dans d'autres continents. Du coup, tout ça doit être un équilibre. Il y a des fois où l'équilibre se rompt et il y a nécessité de soins obligatoires ou accompagnés. Voilà, donc ça c'est un mode d'entrée.
Rémi ?
Oui, c'était pour dire que la chaînée, c'est on prend son temps pour se soigner, quoi. On n'est pas jeté à la rue avec un médicament, enfin, ou jeté chez soi plus exactement. Et donc il y a des patients qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, 35 ans, et donc voilà, ils prennent le temps de se soigner, et puis il y en a qui ont réussi à se faire des vies à la chaînée, voilà, donc ils ont. Ils ont créé une vie, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut mourir à la chaînée, quoi. C'est déjà arrivé, quoi.
Moi, je continuerai du coup en disant que le secteur public, comme disait Nathalie, fait les hospitalisations à la fois à la demande des patients, mais à la fois les hospitalisations sous contrainte, quand les gens se mettent en danger ou peuvent mettre les autres ou leur environnement en danger. Après, dans la phase chronique, nous, à la chaînée, c'est les gens qui sont en désir de soins, qui sont en demande de soins. Notre mode d'accueil, on fait des visites avant admission, et quand on évalue l'aide qu'on peut apporter aux patients, et les patients, après, s'ils pensent qu'on peut leur apporter de l'aide, demanderont et feront un courrier demandant concrètement, expressément, à des soins. On ne fait pas de l'hospitalisation sous contrainte à la chaînée. Et il faut qu'on travaille sur le désir de soins de la personne qui arrive. Après, voilà, avec les ambivalences de chacun, de la maladie, les difficultés, c'est quelque chose à laquelle on se heurte souvent. Quand ça va très mal, eh ben, on demande de l'aide. Mais dès que ça va un peu mieux parce que je reprends mes traitements ou quelqu'un m'a aidé à passer une phase difficile, j'ai envie de rompre les soins. Et on travaille aussi un peu cette ambivalence de bien se connaître et stabiliser sa qualité de vie.
Est-ce qu'on peut mettre cette pratique, entre guillemets, en rapport avec le cœur même de la psychothérapie institutionnelle qui veut, si j'ai bien compris, que c'est le sujet avant tout, Gwenvel ?
Le club est là aussi pour aider à être dans une temporalité plus longue. Mmh. On est dans des relations où on est... Le club sert à instaurer d'autres relations que soignant-soigné, à sortir un peu de ces rôles-là, à se rencontrer en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'est de ça, enfin voilà, c'est la position qu'on a là. Le fait de présenter ici les phases chroniques, aiguës, et puis tout le travail du secteur public qui est fondamental, enfin qui est en tout cas indispensable, c'est aussi pour mieux donner aux auditeurs les clés de compréhension de notre place spécifique à nous en tant qu'association du club de la Chaînée, parce qu'on ne fait pas tout. Et il faut rester humble dans ce qu'on fait à l'endroit, dans tout le paysage de la psychiatrie. On n'occupe qu'une petite place, ou en tout cas une place tout à fait distincte. le rôle du club, c'est de faire croître du désir chez les pensionnaires. Enfin, on est dans autre chose que seulement du soin de rapport à la pathologie. Mmh. Il s'agit d'apporter une autre temporalité et une autre qualité de relation humaine.
Nathalie ?
En fait, le club permet d'apporter des supports, des outils pour que chacun d'entre nous, quand je dis chacun d'entre nous, c'est soignants-soignés, c'est les habitants de la Chênaie, que chacun d'entre nous puisse avancer ensemble et continuer à se découvrir, à s'apprendre, à se maîtriser, à s'organiser pour que demain soit un peu plus meilleur, avec toutes les guillemets que je peux mettre, et pour que demain et après-demain aient des perspectives un peu plus lointaines, où le soleil va se coucher 2-3 minutes plus tard, et ben j'en profite. Et comme ça, tous les jours, j'emmène mon soleil se coucher un peu plus tard.
Je rajouterais une chose sur la dimension privée. La vocation des cliniques comme la nôtre, l'impact soit privé, ce n'est pas d'en faire un outil à but lucratif, c'est d'en faire un outil libre des choix thérapeutiques qu'elle peut faire. Et surtout, principalement, c'est d'avoir ici la liberté d'avoir un club thérapeutique dont on parle des bienfaits, de l'utilité depuis le début.
Oui, à partir de tout ce qu'on a dit là, on va pouvoir commencer à écouter quelques témoignages, parce que à partir de ce qu'on a dit, les auditeurs peuvent comprendre que les pensionnaires qui viennent au club ont déjà, ne viennent pas, c'est pas leur première rencontre avec la psychiatrie, ils ont connu autre chose avant. Que ce soit des consultations avec un médecin psychiatre qui les a renvoyés vers tel et tel établissement, que ce soit en passant par les urgences psy, puis par un secteur, etc., qui, par la suite, en général, c'est le secteur qui adresse des patients. Et les patients qui viennent, que l'on connaît, ont déjà un vécu, une histoire de vie. Ouais. Et c'est tout l'objet de ces émissions, c'est de rappeler cette vie, cette richesse-là, et d'en parler.
On va écouter un premier témoignage, donc on va écouter François.
Je suis un vieux chénéen, et je suis encore un plus vieux malade. J'ai commencé mon parcours en psychiatrie, j'avais à peu près 20 ans, un peu plus. J'ai été hospitalisée au Val-de-Grâce, qui était un hôpital militaire. Et c'était très impressionnant, la première hospitalisation. Parce que tout d'un coup, on est entouré par beaucoup de personnes qui sont dans la misère. J'étais très impressionnée par les gens qui marchaient dans le couloir, qui déambulaient dans le couloir. C'est un choc d'entrer dans un service de psychiatrie, surtout quand on est soi-même un peu... Actuellement, je passe 3 jours et demi, 4 jours par semaine à la clinique. Par exemple, j'aime bien venir le dimanche parce que c'est une journée très tranquille, très agréable. On ne fait pas trop d'efforts, il faut bien le reconnaître. Moi, j'en profite pour faire un petit peu de standard téléphonique. La vaisselle, de l'accueil.
C'est-à-dire, là, tu parles de contrat.
Là, je suis dans des contrats, d'accord. C'est ça. Et,
tu veux expliquer un peu le principe des contrats ?
Oui. Je prends une obligation vis-à-vis de la clinique de remplir une tâche et je suis rémunérée pour cette tâche. C'est un peu symbolique, mais c'est quand même une rémunération. Les travailler à la salle à manger ou au travers, c'est un contrat. Peut-être qu'ils ne sont pas rémunérés de la même manière, je ne sais pas ça.
Au niveau d'autres choses que tu aurais envie de nous dire sur tes journées à la Chênaie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ?
Et en dehors de la Chênaie.
Moi, j'aime bien être prise en charge à la clinique. Quand j'arrive ici, je me sens en sécurité.
En termes d'activité qui te donne du plaisir, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimes faire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ?
Moi, c'est d'abord la musique, jouer du violon, un peu de piano. Le lundi, par exemple, je reçois les enfants de la crèche parentale au château d'eau pour une petite séance musicale. Je leur joue quelque chose, les fais chanter, mais je chante pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Ils ont 2 ans au maximum.
Et le citoyen François dans la ville ?
Que dire ? Moi, de gré ou de force, je représente quelque chose. L'idée qu'il ne faut pas compter sur une baguette magique pour que le monde change. Il nous faut essayer de rester dans les problèmes de la réalité et affronter les problèmes réels.
Tu veux dire par là qu'il faut surtout compter sur soi-même ?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que si on pouvait compter davantage sur les autres, le monde serait meilleur.
Voilà, c'était le témoignage de François. Une petite réaction ?
C'est un témoignage touchant,
ouais.
De plusieurs points de vue. Enfin, à la fois sa première hospitalisation, cette rencontre-là avec la psychiatrie, elle a été marquante, très marquante pour lui. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent en attester. Et puis, un autre aspect qui est aussi touchant, mais qui arrive bien plus tard dans son parcours de soins, c'est que depuis 20 ans, il joue de la musique à des petits-enfants à la crèche. Alors, c'est étonnant, puisque ce parcours-là, ça rapproche deux éléments tout à fait distincts, mais qui font pour autant partie intégrante, bon, d'une part de sa vie, mais aussi de son parcours de soins. Et à la fois, on peut se dire que c'est tout le parcours de soins et aussi tout le travail de secteur ou autre, et de tous les établissements qu'il a rencontrés, qui ont facilité son propre travail à lui, pour en arriver là. Et puis à la fois, ça permet, cet exemple-là, il est bon parce qu'il donne deux regards sur ce qui se passe en psychiatrie. D'une part, le travail psychiatrique et d'autre part, la place du club. Et c'est ça qu'amène le club, le fait de faire de la musique avec des enfants, c'est tout à fait autre chose. Mais on peut se dire, est-ce que l'hospitalisation donne du sens à l'existence ? C'est pas toujours sûr. Et puis, on peut se dire d'autre part que des activités comme ça, avec des enfants à la crèche, pourquoi pas ? Ça, on peut se poser la question.
Laetitia nous a rejoint. Bonjour.
Salut.
Laetitia. vous voulez dire un petit mot ?
Oui, moi j'avais envie de parler à propos de la notion de l'accueil et surtout de l'hospitalité. C'est un mot qu'on emploie beaucoup en psychiatrie, mais il est très très vrai. L'accueil enfin la façon dont on est accueilli, en tout cas à la clinique de la Chênaie, même en psychiatrie en général, c'est très agréable parce que vous avez beau avoir peut-être fait quelques écarts vis-à-vis de la société, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, on vous accepte, on vous prend tel que vous êtes. Et ça, c'est vraiment super.
Vous voulez
c'est
dire
essentiel.
Sans jugement.
Sans jugement, voilà. On vous prend vraiment vous tel que vous êtes, avec votre parcours, avec vos écarts, vos machins.
Moi, ce que je voulais aussi inviter à réfléchir, c'est il y a la notion d'accueil. On accueille les personnes qui viennent en soins ici, mais il faut aussi penser que c'est pas facile de se laisser accueillir. Vraiment.
Faut pouvoir accueillir l'accueil.
Exactement. Et ça, c'est pas simple. Et c'est pas quelque chose d'habituel. Ça fait pas partie de nos connaissances ou de nos habitudes. Et voilà, c'est à signaler également.
On passe au deuxième témoignage, parce que cette émission est ponctuée particulièrement par la vie des gens.
Exactement.
On va écouter maintenant
Aristide.
Salut Aristide.
Salut Laetitia.
Alors Aristide, tu es à la Chênaie depuis combien de temps à peu près ?
Mars 2010. Ça fait 9 ans que je suis là.
Et
l'hôpital de jour. Depuis le 21 mai 2013.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'hôpital de jour ? Ça a été un bienfait pour toi ? Comment tu le vis ?
Oui, ça a été un bienfait. Je vis bien, je m'entends bien avec tout le monde. On fait plein de trucs ensemble, le bar, le ménage. On fait des activités ensemble, on fait des sorties ensemble aussi. On fait des voyages ensemble. Puis voilà.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'hôpital de jour ?
L'hôpital de jour, c'est pour ceux qui ont un pied à terre sur Blois ou dans les alentours. Comme moi, je suis en maison relais de Vineuil. Voilà, moi, je suis à Vineuil, les autres, ils sont à Blois.
En gros, l'hôpital de jour signifie que tu es à l'hôpital en journée et le soir, tu rentres chez toi dans l'appartement et tu retrouves les autres colocs, quoi.
C'est ça, tout à fait. Et je retrouve les autres colocs et ils sont contents de me revoir. Et ils disent « Ah, tu nous as manqué, tu nous as manqué Aristide, trop fort. » Non mais c'est bien, on vit dans un contexte. Moi je suis partant pour prendre l'appartement. Donc je vais attendre un petit peu avant de prendre mon appartement, mais j'ai une option pour prendre un appartement. Parce que ça fait trop longtemps que je suis en maison relais et j'ai envie de prendre mon indépendance.
Donc les choses se passent assez progressivement. Hein, tu as commencé par l'hospitalisation à temps plein. Après, tu es passé en hospitalisation en maison relais. Et l'étape d'après, c'est d'être seul dans ton appartement à toi.
C'est ça. J'aimerais bien avoir mon appart, cuisiner des bons petits plats. Et puis voilà, quoi. ce serait bien. Non, ce serait bien. C'est une sacrée étape pour moi de prendre mon appart.
Qu'est-ce que ça changerait de particulier?
Ben, je ne serais pas avec les autres, je serais tout seul, ben, c'est pas grave, mais au moins j'aurais mon propre chez moi et je serais bien chez moi. Je ne dis pas que je suis pas bien en maison relais, hein. C'est qu'il faut que je prenne mon envol maintenant.
Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur.
Une petite réaction après le témoignage d'Aristide, Nathalie.
Ouais, on voit avec son témoignage du coup que la chaînée ou une structure, pour Aristide, c'est la chaînée en temps plein, c'est un passage, c'est une marche qui gravit pour pouvoir en atteindre une deuxième. Pour lui, ça a été l'hôpital de jour avec un accueil en maison relais. Et puis, l'autre marche qui l'attend, pour lui, sa vie, il se voit en appartement, seul, avec un soutien, un étayage, toujours avec l'hôpital de jour de la Chênaie. Et puis après, ben, une autre marche à gravir, en suivant son chemin à lui, le bout de vie qui va l'accompagner un peu plus loin.
Juste, tu as utilisé le mot étayage, on pourrait peut-être expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est un mot un petit peu du métier. Moi, je le définirais comme apporter des outils aux gens, étayer. On parle souvent pour aller vers plus d'autonomie. C'est concrètement étayer. C'est on voit qu'une personne marche systématiquement pieds nus, s'abîme les pieds. Et ben, on va prendre le soin de l'accompagner chez le podologue, de lui trouver des chaussures adaptées, etc. On trouve un outil face à une difficulté qu'on rencontre. Voilà. Mmh.
Et là, Aristide parlait de se préparer des bons petits plats. Et ben, il a pu découvrir la cuisine grâce à un contrat qu'il a mené à la cuisine. Et puis après, à l'hôpital de jour, il y a aussi une fois ou deux fois par semaine la construction de menus. On fait sa liste de courses, on va faire ses courses, on met dans une poêle, on fait cuire dans une casserole, on présente correctement, on accueille les gens qui sont autour de la table. Et ça a besoin pour certaines personnes, ça se découvre pas forcément en famille, avec les recettes de la grand-mère, mais ça s'apprend petit à petit, avec une structure de soins, avec des gens autour de soi, avec des soignants ou des patients ici, pour continuer d'avancer, continuer d'apprendre les petits bouts qui sont nécessaires pour permettre à sa vie de continuer.
Oui, on l'a bien vu dans l'émission dernière. Voilà, c'était très bien dit aussi par les gens qui ont témoigné. Tout ce qui apporte les contrats. Ouais, tout à fait. If someone could have told me what's right and what's wrong, if someone could have told me why everything I do fails in the end, I've been wandering, I've been searching, but my mind seems to bury everything. Catch me, God's success, man, doing my best. Catch me, better than.
Julien, qu'est-ce qu'on vient d'écouter comme musique?
On vient d'écouter Catfish, un groupe qui est passé au Boissier l'année dernière. Ouais. Et le morceau s'appelle Catch Me. C'est un groupe très rock. Une femme à la guitare et à la voix, au chant, et un batteur.
Gwenvel, est-ce pour cette deuxième partie d'émission?
On va écouter le témoignage de Thibaut.
Allez, c'est parti.
Ouais.
Donc, j'ai été deux fois en psychiatrie adolescent. J'étais un grand dépressif. Et ce que je disais juste avant, c'est que maintenant, pour moi, être noir à l'intérieur de soi, c'est laisser gagner les autres. Donc voilà, c'est pour ça que je m'interdis. Dès que ça va pas, j'en parle et tout. Par exemple, après les fêtes de Noël, j'ai eu un petit flanc de 3 jours où j'ai dit que ça allait pas, tout ça, que c'était le moral. Mais sinon, c'est très rare que je sois maintenant reclus sur moi-même, triste, vague à l'âme. Ouais. Et puis, ça, c'était pour une première partie psychiatrique adolescent. Donc, c'était simplement la dépression jusque-là. Sachant que j'ai eu des consommations dans ma vie de produits stupéfiants. J'avais commencé le cannabis.
Oui.
J'avais testé un ou deux trucs vers 16-17 ans. Vers 15 ans, je veux dire, des ecstasies. Mmh. Et sinon, après, dès 16-17 ans, un peu à tout, quoi. Tout sauf l'héroïne. Mais beaucoup de choses, les acides, les LSD, la cocaïne, la kétamine.
Et pourquoi, enfin c'est une question peut-être un peu bête, quoi, mais pourquoi est-ce que tu prenais des drogues?
Parce que je supportais pas le monde dans lequel on était. Déjà, voilà, j'étais dépressif. Mais j'ai pas changé d'avis sur le monde, sur ma vision du monde que j'ai toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même tous enfermés dans les cages à lapins pour faire un marché, soit une entreprise, soit une famille, soit une industrie, soit même une association. C'est donner son temps de vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Alors qu'il y en a qui sont pavanes, les pieds en éventail, d'autres pieds en éventail au soleil, toute l'année. Et ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont les plus, comme disait une chanteuse, la plus grande des racailles se trouve à l'Élysée.
D'accord, ouais. On va revenir. Après, tu m'avais parlé d'une famille d'accueil.
Oui, donc ça, c'est ma mère qui pétait les plombs chez moi. Je ne supportais plus l'entendre crier sur ma frère et soeur. Donc, elle criait un peu sur moi, mais surtout sur ma frère et soeur. J'en ai voulu, d'ailleurs, je leur en ai voulu, mais je ne sais même pas s'ils sont au courant qu'ils ont été concernés. Mais je supportais peu, quoi, les cris, tout ça. Mmh. Et puis moi qui faisais mon spleen complètement. Je me lançais dans les lectures, du genre Grand Moule, un truc comme ça. Et j'étais très intéressé par la philosophie aussi, je le lisais beaucoup. Donc si j'étais en famille d'accueil, c'est ça?
Mmh.
Ouais, bah, c'est parce que j'étais en lien avec mon éducatrice dont je parlais tout à l'heure.
Ouais.
Qui m'a proposé ça pour partir de chez moi, j'ai accepté. Donc ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai été tranquille, serein de rentrer chez moi. Sans penser à ce qu'il y a d'écrit.
Ouais.
Toujours l'écrit, ça me manque beaucoup, ça.
Peut-être sauter quelques années, mais du coup, comment s'est passé ton arrivée à la Chênaie? Qu'est-ce qui s'est passé les années qui ont précédé? Et puis aujourd'hui, à la Chênaie, comment t'y es arrivé?
En 2011, j'ai intégré la psychiatrie adulte. Et j'y suis resté jusqu'en octobre 2017.
D'accord. Où ça?
Sachant que, c'est que de fin 2011, j'ai été à Porte de Choisy à Paris.
Oui.
En psychiatrie. De janvier 2012 à juin-juillet 2012, j'étais suivi en hôpital de jour et par un CMP. Et j'étais complètement malade, complètement pas du tout en phase avec le monde qui m'entourait encore. Il fallait que je bosse encore un peu plus sur moi-même. Donc je suis sorti de là en été 2012 et sans aucun projet à la rentrée 2012, ouais. De septembre à octobre. En fait, chaque mois, j'avais mon rendez-vous avec mon médecin en plus, ouais. Du l'hôpital de jour, qui me donnait mon ordonnance pour avoir mon médicament,
ouais.
Pour le mois. Et ça m'est arrivé 2-3 fois dans l'année d'oublier le rendez-vous.
Mmh.
Ils m'ont redonné rendez-vous 2-3 jours après. Et une fois, ils m'ont redonné rendez-vous 1 mois après. C'est-à-dire que pendant 1 mois, je n'ai pas eu mes médicaments. Ça m'a fait péter les plombs et j'ai sauté du 5e étage. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis paranesthésié, c'est-à-dire que j'arrive à remarcher. C'est un miracle. Mais je suis quand même beaucoup atteint encore, je marche doucement. Puis je fais toujours la rééducation tous les jours par moi-même.
Et alors, qu'est-ce qui te plaît à la chaînée ?
À la chaînée, en 2014, j'ai subi une agression. J'ai dû sauter de la voiture en marche. Les gars, ils voulaient me jeter du pont et tout, une histoire de fou. J'ai bientôt touché les indemnités là, depuis pas mal de procédures qui ont été faites. C'est vrai, après la défenestration, j'ai été pendant un an à l'hôpital jusqu'à fin 2013. Et en mai 2014, j'ai été agressé.
Oui.
Juillet 2014, j'ai rejoint mon hôpital de secteur de psychiatrie après avoir passé du temps dans l'hôpital de Créteil parce que c'était par là-bas que c'était passé l'agression. Et ensuite, je suis allé dans mon hôpital de rééducation à Issy-les-Moulineaux qui m'ont renvoyé en psychiatrie dans le même hôpital que je connaissais depuis avant.
Et la chaîne, t'y arrives quand ?
J'y suis arrivé en restant toujours hospitalisé jusque-là.
Oui.
Je suis arrivé à la chaîne en octobre, fin octobre 2017. Donc, toutes les autres années, de 14 à 17, j'étais en hôpital psy.
Bah, qu'est-ce que tu penses de ce qui est proposé par rapport aux autres établissements psychiatriques ?
Bah, c'est la seule clinique que j'ai fait dans ma vie. Sinon, j'ai fait plusieurs hôpitaux psychiatriques. Enfin, adulte toujours le même et adolescent toujours le même. Mais à la clinique, bah, déjà, c'est la thérapie institutionnelle. Ça, c'est un grand débat à chaque fois qu'on en parle. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. On n'a pas tous la même vision de voir cette chose-là. Et moi, ça m'a aidé à peaufiner ce qu'il y avait à peaufiner, mais qui était quand même très important. Et quand je me rappelle comment j'étais en arrivant, ça faisait plusieurs années que j'étais en psychiatrie, c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de partir. Mais je ne savais pas que j'étais dans cet état-là, quoi. Il n'y a que la Chine où j'ai vu vraiment, pas dans le miroir, mais un peu dans l'esprit. J'avais encore beaucoup, beaucoup de travail à faire en tout ce qui est psychomotricité, perception, discussion, relationnel. Voilà. Sachant que moi, je suis diagnostiqué schizophrène affectif.
Affectif ?
Ouais. Ici, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, quand j'étais en rééducation après la défenestration, j'étais suivi par un psychiatre qui était dans l'hôpital. Il m'avait diagnostiqué ça. Et puis, je ne sais pas si les autres ont fait la même chose, mais en tout cas, c'est schizophrène, ça c'est sûr.
Ok, alors il nous reste 2 minutes. Et est-ce que parcours de soins, ça te dit quelque chose ?
Parcours de soins, c'est vrai qu'on a fait toute la moitié d'avant. Parcours de vie, parcours de soins. Bah, le parcours de soins, c'est super personnel, je trouve. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plein d'étapes à passer. Il faut prendre son temps. Cette année, je m'étais réinscrit à une formation que je vais sûrement réarrêter. J'attends encore une ou deux semaines avant de décider. Mmh. On s'est dit ça avec le médecin. Ça fait déjà une semaine que j'ai arrêté de travailler les cours parce que je ne me sens pas prêt, parce que ça met beaucoup de pression. Puis je dépensais un peu de sous aussi pour ça. Hein. Donc, c'est des sous à la poubelle sinon aussi. Quoi. Et parcours de soins, je considère avoir muté du post-adolescent au début de l'adulte. Je pense avoir fait ma transition ici. Voilà, tout ce qui est question de responsabilité, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mes proches, ils ont du mal à comprendre que je puisse ne faire des choses que je ne souhaite pas. Comme par exemple, mal manger à table, m'en mettre partout, des trucs comme ça. Bugger dans les discussions. Et tout le monde n'a pas été du même comportement avec moi. Pour tout ce qui est hygiène de vie, tout ça, moi je suis nickel maintenant. Avant, j'avais quand même du mal à me lever, à me prendre la douche, machin, truc.
Oui.
Ça s'est réglé déjà, l'hygiène et tout. Ensuite, en psychomotricité, donc psychomotricité, c'est psycho et motricité. Donc moi, en plus de ma paralysie, j'ai aussi ma perception des choses dans l'espace visuel et auditif qui a été à retravailler beaucoup aussi. Mieux percevoir le monde qui m'entoure. Et m'ouvrir de plus en plus aux autres. Et ça, c'est en ce moment, ça.
Bon, bah, c'est sûr.
Que j'accepte qu'un patient puisse m'offrir de l'aide.
Voilà encore un témoignage touchant. Hein. Encore quelqu'un qui revient de loin. Marie-Ange, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous vouliez réagir.
Oui, par rapport à quelque chose qui m'a paru frappant, particulièrement dans ce témoignage, c'est le fait que dans les dispositifs qui existent, en fait, on se retrouve pris en charge, c'est vrai, mais ensuite on se retrouve abandonné. Et c'est ce qui est arrivé à Thibaut une multiplicité de fois, c'est-à-dire qu'il a reçu éventuellement une aide qui était pertinente et qui a été efficace un temps, mais ensuite on l'a laissé retourner, se débrouiller tout seul. Mmh. Il a été pris en charge par une autre structure et à nouveau par une autre structure. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de référence, il n'y a pas la personne, enfin la structure ou la personne vers laquelle on puisse se tourner et qui soit là quand il vous arrive quelque chose que vous n'êtes pas capable de gérer vous-même.
Mmh. Oui.
Voilà.
Ouais. Quelque chose à laquelle se raccrocher. Ouais.
Voilà.
Merci Marie-Ange. Julien ?
Oui, moi j'ai trouvé son témoignage très authentique, un peu décousu, mais c'est aussi ce qui fait partie de l'authenticité. Ça parle aussi de ses symptômes, de sa manière de penser, qui peut être un peu, des fois, un peu décousu. Il parle aussi de la prise de toxiques. C'est un point très intéressant. Souvent, la plupart des patients sont arrivés les premiers symptômes vers l'adolescence. Il y a une envie à ce moment-là de s'auto-soigner, de s'auto-médiquer avec la prise de toxiques, parce qu'on se rend compte que ça peut apaiser des voix, ça peut apaiser des hallucinations, ralentir ou réorganiser des idées qu'on a du mal à gérer. Et c'est à la fois une tentative de soigner, mais aussi quelque chose qui, ce qu'on appelle, fait décompenser, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait plus de mal que de bien, ça désorganise et ça aggrave les symptômes. Mmh. Et ça, il le dit bien avec les différents produits qu'il a pu tester. Quoi.
Oui, tout à fait. Gwenvaël ?
Oui, par rapport à ce que disait Marie-Ange tout à l'heure, c'est qu'on voit très bien dans le témoignage de Thibaut à quel point la discontinuité de soins a des conséquences qui sont gravissimes pour les personnes. C'est-à-dire qu'un rendez-vous de médecin qui est pris trop tardivement a des conséquences qui sont vraiment tragiques et qui affectent toute une existence, sur une vie entière, sur des années, sur des décennies. Ça s'est manifesté par une défenestration, et puis derrière il y a toute la rééducation, comme il dit, c'est un miracle s'il remarche actuellement, etc.
Ce qui est très intéressant justement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette prise en charge, c'est voir à quel point c'est fragile.
Ouais.
C'est cette fragilité. Je pense que le commun des mortels, on n'a pas cette conscience-là que ça peut très très vite basculer.
Et la constance de la prise en soin, du coup, est capitale. On voit bien là, du coup, c'est une erreur dans l'accompagnement, du coup, de Thibaut et dans ses soins. Mais il y a aussi une expression de la maladie qui fait qu'on peut de soi-même aussi avoir envie d'arrêter de se soigner, parce que pour diverses raisons, de par l'ambivalence, qu'on a envie de se soigner quand ça va très mal, et puis dès que ça va mieux, qu'on prend les traitements qui nous soulagent, on se dit qu'on n'est plus malade et qu'on n'a plus besoin d'aide. Et là, on a une rechute. Ces rechutes-là, ça peut être dû soit par des erreurs entre guillemets dans la prise en charge, ou soit des oppositions, des difficultés du patient à s'engager dans ses soins.
Nathalie ?
Moi, je voulais préciser aussi, il y a l'hospitalisation qui se fait dans une structure, que ce soit une structure qui soit fermée, qui soit ouverte, mais il y a aussi, et il y aurait dû, avec la sectorisation des soins en psychiatrie aussi, la mise en place de suivi en ambulatoire, comme on pourrait le penser quand on a un problème somatique. C'est un accompagnement chez soi. On peut être...
C'est ça, la prise en charge en ambulatoire, ça veut dire ça.
Oui.
Un accompagnement à domicile.
À domicile, d'accord. Voilà. C'est exactement ça. On souffre de problèmes psychiatriques. On peut et on se doit de pouvoir continuer à vivre. Mais pas forcément dans une institution. On n'a pas forcément besoin d'avoir un étayage 24 heures sur 24 ou d'avoir un étayage deux jours, un accueil 9h, 17h dans une structure. On peut avoir juste besoin de une fois, deux fois par jour, trois fois par jour, d'avoir la visite d'une infirmière dans un premier temps pour l'aide à la mise en place des traitements. Ça peut être également une aide ponctuelle pour les travaux du quotidien qu'on fait plus ou moins bien tous chez soi, le ménage, les courses, les repas. Mais son état de santé peut être avoir besoin de soins au quotidien, mais doit et peut parfois permettre une vie comme tout à chacun. Ouais. J'ai mon chez moi, je rentre, je sors, je suis malade, j'ai un parcours psychiatrique, mais j'ai le droit de vivre comme tout à chacun, avec mon traitement, avec des soutiens extérieurs, mais avec la porte de ma maison qui s'ouvre sur la ville et de vivre, tout bêtement. Et ça, ce petit côté, ce côté primordial pour moi de permettre aux gens de se retrouver dans la cité, comme c'est une expression qui se dit actuellement, nécessite un étayage. Et pour l'instant, dans l'organisation de soins en France, cet étayage est minime. Minime. Il n'y a rien qui prend le relais de sortir d'une structure de soins pour son chez-soi, à part si on a une famille qui est présente ou si on a une organisation autour de nous avec des moyens financiers pour mettre en place ça du côté privé. Après, si monsieur et madame tout le monde avec très peu de moyens, une famille qui n'est pas forcément là, c'est très 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 compliqué de pouvoir se reposer à long terme chez soi, tranquillement, avec un risque de rechute minime. Parce que le risque, c'est ça, c'est l'arrêt des soins pour X raisons, et du coup, les symptômes reprennent place et les risques sont majorés, tout simplement. Et il manque vraiment cette étape de je sors d'une structure d'accueil pour retourner ou pour créer mon chez-moi et permettre de vivre comme tout à chacun avec une maladie chronique certes, mais de vivre tout simplement.
Mais cette prise en charge ambulatoire, ça a toujours fait défaut de tout temps, ou il y a eu des coupes franches budgétaires ces dernières années, ou comment c'est, ça a toujours été...
Non, on ne va pas faire de démago non plus.
Ouais, voilà. Surtout pas.
Que par à cause des problèmes de financement. Je pense aussi que c'est la maladie qui veut ça aussi. On voit que l'idée, c'est d'alléger l'étayage au fur et à mesure et progressivement. Le moindre à-coup un peu brutal dans le retrait d'un étayage peut vite se transformer en décompensation et du coup une réhospitalisation, une nouvelle phase de crise, une réhospitalisation en temps plein, etc. à l'hôpital. Et voilà, du coup, il y a cette importance de vraiment doser. Il y a une grande vigilance des soignants pour doser l'étayage qu'on enlève petit à petit. Parce que l'idée, c'est d'en enlever un petit peu, mais pas trop, pour que le patient ne se trouve pas démuni. Et surtout, cette vigilance, quand on a des signes de quand ça va moins bien, là, on a trop allégé l'étayage, ça va moins bien, et du coup, on va lui en rapporter un peu. Parce que si on ne lui en rapporte pas un peu, il risque de nouveau être en grande difficulté.
Mmh. Oui, Marie-Ange.
Oui, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, qu'on retrouve dans le témoignage de Thibault, et qui complète ce qui se dit là. Parce qu'en dehors de la continuité des soins, de la progressivité, de l'adaptation à la situation actuelle de la personne, son témoignage est très sombre. Et pourtant, à la fin... Ce dont il a parlé, c'est de l'aide des autres et d'accepter l'aide des autres. Et je pense que c'est une conséquence de la discontinuité a pour conséquence la perte de confiance. Et que le fait d'être la continuité qui est apportée notamment à la Chesnaye permet petit à petit de recréer la confiance dans l'institution et la confiance aussi dans les autres. Mmh. Et c'est toute l'institution, y compris les autres patients qui sont soignants, et c'est ça qu'on retrouve dans cette continuité. Donc je trouvais que c'était vraiment frappant, dans ce témoignage très sombre, de terminer sur cette note d'espoir.
Ouais, tout à fait. Gwenvel, un petit mot avant d'écouter le dernier témoignage, en fait.
Non.
On peut parler un peu des différents outils aussi. Il y a beaucoup de structures qui interviennent, du coup, dans la phase plutôt chronique, du coup, au sortir de l'hôpital public. Il y a les CMP, centres médico-psychologiques, qui sont un acteur important, qui dépendent de l'hôpital public et qui ont ce rôle d'étayage chez des patients qui sont souvent chez eux et qui viennent soit pour l'aide à l'instauration d'un traitement, Il y en a qui viennent simplement pour avoir une injection de médicaments en retard et qui viennent faire cette injection toutes les 15 jours. Mmh. Et il y a ce suivi-là qui est un peu un suivi de ville, quoi.
Donc, dans ces structures, on retrouve des infirmiers, des médecins.
Voilà. C'est un suivi de ville des patients qui sont chez eux. Mmh.
Mais eux ne font pas des visites à domicile, c'est les patients qui se déplacent.
Si. Les CMP aussi. Sont aussi D'accord. amenés à faire des visites à domicile. Mmh. Ça peut être le rôle aussi des hôpitaux de jour, qui à la fois ont le rôle d'accueillir les patients dans une structure certains jours de la semaine, et aussi de rendre visite aux patients chez eux pour voir l'état de leur domicile, leur qualité de vie chez eux.
Donc c'est plus que des partenaires, c'est
voilà, c'est des intervenants, c'est des aussi intervenants dans les parcours
essentiels, voilà, ouais. qui jalonnent le parcours d'une vie et le parcours de soins.
C'est ça.
On écoute le témoignage de Gabriel.
Alors Gabriel, est-ce que tu peux nous dire ce que t'as apporté ou ce que continue à t'apporter la psychiatrie?
Oui, eh ben écoute Laetitia, voilà, avant d'arriver à la chaînée, j'avais pas un réseau social très important. Je discutais pas beaucoup avec mes amis, avec le peu d'amis que j'avais, les membres de ma famille, et j'ai retrouvé une certaine ouverture d'esprit, je sais pas comment dire. C'est un grand mot, hein, mais voilà, je me suis resociabilisé avec les autres, je peux dire ça comme ça, et grâce au contrat, aux activités, aux échanges que je peux avoir, donc aussi bien avec les moniteurs, les médecins que les pensionnaires, avec tout le monde. J'ai retrouvé un peu le goût de l'effort, du travail, quoi. Aussi un petit peu, voilà, dans une perspective de retravailler un jour, évidemment, c'est le but, hein. Je vais avoir 28 ans, donc je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi. Voilà, je me dis que j'ai peut-être perdu suffisamment de temps comme ça, donc il va falloir se remettre au travail, quoi.
Mais tu as des projets?
Oui, bah oui, justement, oui. Les projets sont un peu flous encore, mais là, je commence demain une mini-formation en le visa pro numérique à l'AFPA, en fait. C'est le pack office avec Word, Excel, PowerPoint, donc auprès de l'AFPA. C'est à peu près 40 heures. La formation s'est dispensée en 40 heures à peu près. Voilà, j'ai déjà rencontré mon contact à l'AFPA. Donc je serai sur un poste informatique, et j'ai un espèce de casque, une hotline en fait, et il y a une personne qui me parle en direct et qui me donne des consignes, des exercices à effectuer au fur et à mesure sur ordinateur, sur le PC. Et si j'ai un souci, je peux demander à mon formateur qui me file un petit coup de main. Il est pas très loin, donc il peut m'aider au cas où je bute sur un exercice, quoi. Voilà. Alors, j'appréhende, j'angoisse un petit peu, mais je pense qu'il y a pas de raison, ça va bien se passer. Je suis pas plus bête qu'un autre. Alexandra et Virginie l'ont fait aussi, elles ont réussi. Elles ont fait à peu près la même formation, elles ont réussi aussi, elles l'ont validé, donc en à peu près 40 heures aussi. Donc, et même comme j'ai l'âge, du coup j'ai même droit à plus d'heures, j'ai le droit encore à plus d'heures. Si ça me prend plus d'heures, j'ai le droit à plus d'heures aussi pour boucler cette formation, quoi.
Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur. Oui, Gwenvel, une petite réaction alors, à chaud.
Oui, donc là on vient d'écouter Gabriel, qu'on avait déjà écouté dans l'émission précédente, la troisième. Et cette fois c'est un témoignage beaucoup plus positif, alors on reconnaît toute son énergie qu'on avait déjà écouté la dernière fois. Et c'est vrai qu'effectivement on n'a pas forcément cette représentation-là, mais ça reste possible de quitter le monde de la psychiatrie petit à petit. Ça se construit justement, et puis là actuellement il est sur un projet de formation, ce qui est tout à fait positif pour lui, enfin, c'est vraiment super. Et puis on peut imaginer pour lui qu'il puisse soit chercher un travail dans un ESAT par exemple, soit dans un établissement en tout cas où le travail est encadré.
Mmh. Établissement de service d'aide par le travail.
Voilà.
Merci beaucoup. Soit dans une entreprise adaptée, c'est-à-dire qui fait partie du marché des entreprises qu'on peut trouver dans la région, mais qui est plus adaptée que d'autres, soit des entreprises du milieu ordinaire.
D'accord. Voilà. Nathalie ?
Oui, je voulais préciser, il a spécifié l'AAH, donc c'est une allocation et adulte handicapé. Donc c'est un moyen d'avoir des ressources financières en étant hospitalisé. Voilà.
Et cette allocation, c'est la personne qui la demande à qui ?
C'est la MDPH qui attribue si on a un statut de handicap qui justifie d'avoir accès à l'AH et ensuite l'AH est versée. C'est à hauteur de
850.
Ouais, c'est ça, ou un peu plus. Mais ça dépend.
Oui, autour de 800 euros. Oui, ça dépend des personnes.
Voilà, d'accord. Et ça, c'est un vrai besoin c'est un vrai besoin de nos patients pour leur subsistance. Et pour apporter cet étayage-là, on a un service social à la clinique avec une assistante sociale qui accompagne les patients dans ces démarches de demande d'aide financière et voilà, de demande de recherche de travail adapté, etc. Par exemple, en ESAT,
ouais. Oui. Oui, parce que j'imagine en plus qu'administrativement, ça ne doit pas toujours être très simple de remplir les dossiers.
Pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est déjà très compliqué.
Exactement.
Alors, si on a des difficultés supplémentaires.
Et il faut savoir aussi, il y a, comme tout à chacun, une administration qui dit demande, formulaire, remplir les bonnes choses dans les bonnes cases, mettre un timbre, mais c'est aussi attendre longtemps, et parfois très longtemps une réponse. Et puis des fois, relancer parce que la réponse qui est très longue à venir ne vient jamais. Et
par exemple, pour l'AH, peut être le cas. Peut être très long.
Bien sûr, il y a une demande à la MDPH et ce n'est pas avant 6 mois d'avoir une réponse suite à la demande.
Ah oui, donc en attendant, on mange des nouilles, quoi.
Si on peut encore s'acheter des nouilles.
Si on peut, ouais, d'accord.
Et qu'on sait en préparer.
Et qu'on a une gazinière, une poêle, une casserole et tout ça.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Mais c'est d'accord. Là où on voit, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, que là aussi, pour construire un projet de soins dans le parcours de soins de la personne, le rôle de l'assistante sociale, par exemple, le service social est extrêmement important pour que, petit à petit, on puisse trouver des étayages pour sortir pas à pas de la psychiatrie et en tout cas aussi trouver des ressources. C'est un travail qui est indispensable pour qu'on ait une prise en charge qui soit pluridisciplinaire sur plusieurs axes, puisque des fois, malheureusement, la marge de manœuvre sur le plan thérapeutique peut être limitée, mais déjà prendre en soin la situation sociale de la personne, ça change énormément de choses, qu'une personne soit sans ressources ou avec des ressources. Et aussi, ça peut débloquer des choses sur le plan thérapeutique quand la situation sociale est beaucoup, beaucoup moins précaire. Ça, c'est évident.
Ouais. Ça me fait penser à, quand il y a des ruptures dans le parcours de soins, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent à la rue. Ça arrive souvent. Pour une raison ou pour une autre, il y a une rupture de soins. Et ils en ont eu marre des soins ou leur prise en soins à l'hôpital a eu un loupé, on retrouve beaucoup de patients qui se retrouvent à la rue totalement démunis, sans vraiment moyen de subsistance.
Mm-hmm. On va écouter le dernier témoignage de cette émission.
Oui.
Marion.
Le témoignage de Marion.
Salut Marion.
Salut.
Marion, tu as quel âge ?
Alors j'ai 38 ans. Ça fait depuis 2001 que je suis en psychiatrie. J'ai eu un épisode de rémission, enfin de stabilisation pendant à peu près 9-10 ans, où j'étais soignée, bien soignée, stable. Je voyais mon psychiatre une fois par mois, tout allait bien. Et puis en fait, j'ai depuis 3 ans, ça va moins bien parce que j'ai arrêté mes traitements brutalement. Et
pourquoi ? Quelle drôle d'idée ?
Je voulais avoir un enfant et je voulais, ne plus avoir une vingtaine de cachets par jour, quoi. J'en avais plus que ras-le-bol et j'ai essayé d'arrêter. Ça a marché pendant un temps et puis j'ai fait une décompensation. Donc c'était très dur. Là, le fait d'avoir repris 30 kilos aussi à cause des médicaments et puis à cause de la sédentarité, c'est très dur, quoi. Et maintenant, ça va aller un peu mieux, j'espère. Je vais être soignée sous clozapine aussi.
Est-ce que tu as envie d'en dire un petit peu plus sur ta pathologie ?
Alors en fait, au départ, j'ai été diagnostiquée bipolaire tendance schizoïde. Maintenant, je pense que, comme j'entends des voix, en fait, je pense que ma pathologie, c'est plus la schizophrénie. Et peut-être la cyclothymie aussi, parce que j'ai des tendances à être borderline, enfin au niveau de l'humeur, quoi. Je ne sais pas très bien si on dit borderline, mais enfin voilà, quoi. J'ai des sauts d'humeur, des gros sauts d'humeur, quoi.
Là, tu es revenu sur la chaîne, ça fait pas très longtemps d'ailleurs. Ça fait combien de temps ?
Ça fait un peu plus de 3 semaines, là. Et sinon, j'avais fait un précédent séjour de 6 mois qui m'avait beaucoup aidé dans ma vie. Enfin, en fait, je m'étais beaucoup reposée parce que j'en avais besoin et j'avais pris du recul avec ma famille, avec mes amis, et ça m'avait fait beaucoup de bien, quoi. Puis, en fait, là, maintenant, j'aimerais retrouver... peut-être un appartement vers Blois, quitter Paris, parce que Paris, j'en ai ras-le-bol et je voudrais refaire un peu ma vie ailleurs, quoi. Trouver peut-être une colocation ou je sais pas trop, une location meublée ou je sais pas. Mais en tout cas, je veux quitter Paris, quoi. Paris, c'est plus pour moi, quoi.
C'est un mode de vie trop stressant, c'est oppressant?
C'est un mode de vie qui est trop speed et trop agressif pour la fille sensible que je suis, quoi.
Encore un témoignage vraiment très éclairant. Et bah voilà, parcours de vie, parcours de soins, on reste dans le thème. Julien, tu voulais réagir ?
Bah oui, elle parle très bien de son parcours. Marion, elle parle de la phase de stabilisation où tout allait bien, entre guillemets. Elle avait ses traitements, elle était accompagnée. Elle explique bien aussi les raisons pour lesquelles elle a eu envie d'arrêter ses traitements, qui est personnel, mais qu'on rencontre souvent. Il y a plein de difficultés qu'on rencontre dans l'engagement aux soins. Mais elle a eu besoin de cette cassure, de cette phase de moins bien, pour pouvoir revenir et avec l'envie de s'engager de nouveau dans ses soins, de voir le besoin qu'elle avait de soigner. Du coup, elle revient avec une vraie demande de soins, une demande de traitement. Elle comprend l'importance de ces traitements. Elle voit ce que ça fait quand elle n'en prend pas. Elle voit que ça va beaucoup moins bien et elle comprend l'intérêt. Et elle critique aussi sa maladie, ses symptômes. Et on sent le cheminement qu'elle a fait jusque pour en arriver là. Par exemple, sa prise de poids, voilà, la tendance ce serait de dire les médicaments, c'est à cause d'eux que je prends autant de poids, les médecins ils se moquent de moi, ils me donnent vraiment n'importe quoi et c'est eux qui me font grossir. Elle se rend compte aussi que c'est de par son hygiène de vie, de par sa sédentarité, de par son alimentation aussi. Voilà, on sent qu'elle commence à critiquer voilà, ce qui lui arrive et ne pas rejeter, tout mettre sur le dos de la maladie. Et de la subir, ouais. Elle devient actrice de sa maladie et de ses soins et elle a envie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, quoi.
Et elle parle de ce désir d'enfant aussi, ouais. Gonvaël.
Oui, c'est là où on voit que le parcours de soins, il est étroitement lié et intimement lié au projet de vie des personnes. Mmh. Elle en parle très bien, elle l'exprime vraiment très très bien. Et on peut se rendre compte à travers ce qu'elle dit que c'est une prise de conscience extrêmement lourde et difficile à faire de s'apercevoir que se soigner en psychiatrie doit être la priorité, mais jusque-là. Ça passe avant le désir d'enfant et ça laisse entendre qu'il y a un deuil derrière, enfin il y a un deuil à faire sur un certain nombre d'aspects importants du projet de vie. Enfin, c'est pas facile du tout. Comme prise de conscience voilà, à faire.
Nathalie.
Ouais, s'accepter en tant que malade psy, avec tout ce que ça peut représenter dans la façon de... dans le regard des autres. Là, on est dans un lieu où ça se parle, où on connaît la maladie mentale, où on invite les gens à rentrer à l'intérieur de la chaînée via les mouvements du club et les invitations du club pour se rendre compte qu'on est tous humains. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment de notre vie, nous, nos proches, le voisin. C'est pas forcément en adéquation avec les idées qui sont véhiculées par les médias, avec forcément maladie mentale, schizophrénie, violence, voilà, meurtre, tuerie et tout ce qu'on peut imaginer encore d'autres. Voilà, il y a des humains qui sont malades au niveau psychique et qui ont une vie et qui doivent, comme tout à chacun, pouvoir la vivre. Et qui ont une maladie et qui ont, comme tout à chacun, le droit et le devoir d'être soignés. Après, ce qui est très difficile, c'est de l'accepter en tant que malade, d'accepter que pendant toute notre vie, on devra prendre un traitement, que ce traitement aura, comme pour Marion, une incidence sur la prise de poids, qu'il faudra du coup réaménager sa façon de vivre pour gérer son alimentation et, comme l'a très bien dit
Julien,
merci, se remettre en activité. Et ça va pas de soi que de se bouger, ça va pas de soi que d'aller à la salle de sport, que d'aller marcher en forêt, que de prendre son vélo. Et du coup, c'est pas juste, c'est le 1er janvier, je vais remettre le pied dans la salle de sport. Ça fait partie du quotidien, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, c'est plus un jeu avec les 2-3 kilos pour être bien sur la plage.
Encore un exemple de tous les ETH qu'on essaye d'apporter aux patients. Voilà, si on a un problème de poids dû à la qualité de vie qui se dégrade ou la prise des traitements, on essaye de proposer des activités physiques, de travailler le rapport au corps. Voilà, encore un exemple d'outils qu'on propose aux gens pour viser toujours la meilleure qualité de vie possible.
Oui, c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas de désir. Hein.
Ben non, et ça parle à tout le monde.
Exactement.
On en a tous des désirs, sauf qu'il faut imaginer, en essayant de se mettre à la place des patients, qu'il y a une maladie qui nous tombe dessus et qu'on soit forcé de faire le deuil de certaines choses qui nous paraissent de manière légitime capitales dans notre vie. Et voilà, et on doit faire le deuil de certaines choses.
Je fais juste une petite parenthèse sur la médication. Donc, c'est possible d'avoir 20 médicaments par jour. C'est possible d'avoir...
Quand Marion dit 20 médicaments...
C'est imagé.
Non, c'est 20 comprimés. Ça peut, effectivement, en sachant que ici à la chaînée, on laisse s'exprimer le symptôme. Donc, on n'est pas dans une surmédication. Mais oui, effectivement, avec certaines molécules, où il faut avoir plusieurs comprimés.
D'accord.
Donc, ça peut être 20 comprimés à la journée, mais ça peut être 2 ou 3 molécules.
Ça méritera une émission entière.
Tout à fait. Je faisais une petite
expression des symptômes,
parce
mais on voit
que
ça glisse naturellement vers ça.
Ça mériterait
une émission entière où on
parle. C'est questionnant. Voilà,
des symptômes et des réponses, notamment médicamenteuses, qui sont apportées. Il y a beaucoup à en dire. Ouais.
Eh bien, je crois que ça ne va pas être effectivement dans cette émission parce qu'on s'achemine sur la fin. Je tiens à vous remercier encore une fois vraiment chaleureusement. On pourra retrouver donc cette émission en podcast sur StudioZF.fr. Merci encore à vous tous et on se retrouve donc le mois prochain, on va dire, pour un autre thème. On va toujours, je pense, continuer un petit peu dans le même sens, avec des témoignages.
On va continuer à développer les parcours de vie, parcours de soins, et puis glisser petit à petit, du coup, comme on disait, vers l'aspect symptômes et traitements aussi, qui est une part importante des soins.
Merci beaucoup, à très bientôt.